Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus ce matin après les annonces présidentielles de mardi. Les explications donc de Jean Castex tout à l'heure à 11h. Le Premier ministre va détailler les mesures d'allègement du déconfinement. Il y a des déçus très clairement. Donc les bars, les restaurants, on l'a dit. Les stations de ski, elles aussi, condamnées à sacrifier Noël. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Rappelons que Noël, pour les professionnels de la montagne, c'est 20 à 25% du chiffre d'affaires annuel.
Voilà, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, s'est expliqué hier sur le sujet. À ses yeux, le risque sanitaire est trop important. Ouvrir les stations de ski pour les fêtes de fin d'année, c'est ouvrir la porte à l'organisation de festivités et voir des gens se regrouper dans des appartements ou des chalets. Cela risque de provoquer une remontée des contaminations en janvier. Le gouvernement préfère l'éviter, quitte à indemniser les commerces des stations de ski pénalisés par cette fermeture. L'important est de créer les conditions sanitaires les plus favorables possibles afin de pouvoir ouvrir les stations pour les vacances de février, période où il y a le plus de neige. Rappelons que l'hiver dernier, un foyer de contamination s'était propagé dans tout le nord de l'Europe. Son point de départ était une petite station de ski autrichienne, très prisée par les jeunes. Cela a marqué les esprits. Aujourd'hui, l'Europe a du mal à parler d'une seule voix. L'Allemagne a décidé de fermer ses stations de ski et incite ses pays voisins à en faire autant. Mais l'Autriche et la Suisse hésitent encore à passer à l'acte.
Voilà, pression allemande sur la fermeture des stations de ski. On en reparlera tout à l'heure à 7h15 avec mon invité, le PDG de Bellambra, 16 clubs dans les massifs français. Alors pour les entreprises administrativement fermées, je vous rappelle que Bercy muscle son dispositif d'aide qui s'adresse désormais à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Les entreprises administrativement fermées, je le précise, ce sera donc un forfait défiscalisé de 1 500 ou 10 000 euros par mois ou bien 20% du chiffre d'affaires de 2019, plafonné ceci dit à 100 000 euros, le coût pour l'État estimé 1 600 millions d'euros. Alors tout cela annonce évidemment un premier trimestre 2021 difficile. Hier, la Banque Centrale Européenne a invité les banques à épaissir leur matelas de réserve en anticipation d'un accroissement des impayés des clients. Les banques doivent tenir et les États continuer à soutenir l'économie, dit la BCE. Le risque serait de retarder la reprise, mais du côté des entreprises, de plus en plus on entend des appels à suspendre pendant toute l'année 2021 le remboursement des emprunts qui doit reprendre à partir de mars. Alors en attendant, chez les commerçants qui rouvrent samedi, branle-bas de combat, gros week-end en perspective à 4 semaines de Noël. Écoutez Laurent Milchior, c'est le co-gérant du groupe Etam, la lingerie.
On a quand même des baisses de 50 à 60% de notre chiffre d'affaires sur le mois de novembre, donc c'est à moi qui nous coûte très cher. Et du coup, on a préparé d'abord quelles collections on pouvait rebasculer sur l'année prochaine pour pas avoir trop de stock. Et on s'est préparé pour les fêtes avec des décors de Noël en magasin qui ont été installés, avec des produits qui sont en train d'arriver cette semaine pour que les magasins soient prêts pour accueillir dans les meilleures conditions les clientes, et avec un protocole sanitaire qu'on a remis en place, puisque finalement, à part la jauge, c'est un protocole sanitaire similaire à celui qui avait fait ses preuves lors de l'entre-deux confinement, puisque relativement peu de clusters ou pas de clusters ont été développés dans les commerces en France.
Le PDG d'Etam, Laurent Milchior.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h42 sur le front de l'emploi maintenant. Le chômage a reculé en octobre selon les derniers chiffres de la DARES. 60 100 inscrits en moins. On compte 3 794 000 demandeurs en catégorie A. Le nombre total de chômeurs qui recule depuis 4 mois de suite. Forte hausse en revanche du nombre de salariés en chômage partiel. 1 300 000 en septembre. Ils étaient 1 600 000 en octobre. On n'a pas encore les chiffres du mois de novembre, marqués évidemment par la fermeture des commerces. Dans les Échos ce matin d'ailleurs, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, annonce une nouvelle aide exceptionnelle pour 300 000 travailleurs précaires, les saisonniers, les extras. Parmi eux, 70 000 jeunes, les moins de 25 ans, particulièrement touchés par le chômage. Et ce, malgré le plan jeune qui a été lancé cet été. La prime à l'embauche fonctionne bien, certes, mais Pôle emploi vient de recruter 1 300 conseillers chargés spécifiquement de ces jeunes demandeurs d'emploi. Reportage dans une agence Pôle emploi de Rouen, en Seine-Maritime. Émilie Vallès.
Une paroi de plexiglas entre elle, Marion et sa conseillère font le point.
Vous avez parlé la dernière fois aussi de la prestation valoriser son image professionnelle.
Complètement. Du coup, j'ai pas mal réfléchi.
La jeune femme de 25 ans bénéficie de cet accompagnement renforcé depuis 4 mois. Elle recherche un emploi dans l'hôtellerie-restauration.
J'ai ma conseillère par email, par appel, par rendez-vous, en visio, au vu des conjonctures aussi, pour avoir un suivi assez intense.
Mélanie Rigou, sa conseillère, l'a notamment aidée à réécrire son CV.
Elle n'avait pas suffisamment mis ses compétences professionnelles en
avant. Savoir manager une équipe, savoir prendre une commande client, tout ce genre de compétences qu'aujourd'hui un employeur attend sur un CV. Elle n'avait pas conscience qu'elle avait toutes ces compétences.
Emeline, 23 ans, est-elle au chômage depuis mars? Ce suivi renforcé lui a permis de ne pas baisser les bras.
Ça m'a permis de me remotiver, de ne pas me sentir seule, parce que vraiment, c'est un point en fait. Il y a eu vraiment des phases où je me suis dit, je vais complètement me reconvertir, ça ne va pas le faire et j'ai perdu complètement confiance en moi.
Samir Ghalem est le directeur de l'agence. La période est certes difficile, mais il refuse tout défaitisme.
On essaie de faire de cette période une période d'investissement. On a les moyens de le faire. On a des financements de formation qui sont effectivement à la hauteur. En fait, on peut aussi avoir des effets extrêmement vertueux au terme de tout ça, parce que les gens montent en compétences.
Avec ce suivi intensif, 60% des jeunes trouvent un emploi ou une formation dans les 3 mois qui suivent.
À noter enfin concernant l'assurance chômage. Ce coup de théâtre hier, le Conseil d'État a annulé 2 points clés de la réforme qui est suspendue, je vous le rappelle, jusqu'au 1er avril. D'abord, la réforme du calcul du salaire journalier de référence. C'est la base de l'allocation mensuelle. Le nouveau calcul était censé faire baisser l'allocation en moyenne de 24%. C'était disproportionné, estime le Conseil d'État, qui annule également le bonus-malus pour les secteurs gros consommateurs de contrats courts. Concernant maintenant le télétravail, il y aura une nouvelle séance de négociation ce jeudi, ça n'était pas prévu. Les syndicats vont encore tenter de trouver un accord. La taxe GAFA maintenant, elle était suspendue depuis le début de l'année. Eh bien, Paris repart à la charge. Les entreprises concernées ont reçu ces jours-ci leur avis d'imposition pour 2020. La France qui s'expose de fait maintenant à des sanctions américaines sur 1,3 milliard de dollars de produits français. L'actualité des entreprises. Hier, je vous parlais de la reconversion de l'usine Flins de Renault en un pôle d'économie circulaire. Eh bien, Luca De Meo, le directeur général de Renault, et Jean-Dominique Sénard, son président, ont détaillé le projet hier baptisé Refactory. En fait, c'est carrément un nouveau segment du marché automobile que Renault est en train de créer, celui du comme neuf. Céline Cajoulis.
Avec un marché du véhicule d'occasion qui explose, aussi bien en France qu'en Europe, on parle de 2 à 3 fois plus de ventes que pour les voitures neuves, Renault a décidé de se lancer en créant une nouvelle activité. Luca Di Meo, directeur général de Renault.
Je pense qu'il y aura une demande de véhicules d'occasion de grande qualité, parce que là, on est en train de parler de créer un espèce de nouveau segment dans le véhicule d'occasion, que nous, on appelle en code interne comme neuf. Et un peu ce qui se passe, par exemple, dans le secteur de l'aéronautique, où un avion, après 10 ans de service, il revient en usine pour faire un autre tour.
Un nouveau métier pour les 3000 salariés de Flins habitués à fabriquer des voitures neuves. Jean-Dominique Senard, président du conseil d'administration du groupe Renault.
C'est un changement de modèle, mais c'est un changement de modèle qui est créateur de valeur. On envisage plus de 100 000 véhicules qui sortiront de cette usine. Car il s'agit bien d'une usine et ce sera la grande fierté d'ailleurs des équipes de Flins que d'être capable de produire ces véhicules comme neufs avec une valeur le long de la chaîne absolument remarquable.
Et Renault va aussi utiliser cette nouvelle usine pour donner une deuxième et même une troisième vie aux batteries utilisées pour ces véhicules électriques, comme la Zoé, voiture la plus vendue dans sa catégorie.
On termine par les marchés à Paris et le CAC en léger progrès hier soir, un plus 0,23%, 5 571 points. Pas de grosses annonces hier. À Wall Street, le Dow Jones lui est repassé sous les 30 000 points, moins 0,58%. Forte baisse notamment du titre Gap, les vêtements moins 20%. Le titre Nicolas aussi décroche de 12,5%. Le Nasdaq, lui, a un nouveau record, 12 094 points, plus 0,48%. À noter que c'est Thanksgiving aux États-Unis aujourd'hui, les marchés américains seront fermés.